Salut à tous, c'est Guillaume Vendée. Vous écoutez un épisode un peu bonus là de Tech Café. C'est un test, ça s'appelle Paraculte. C'est issu d'une volonté de l'équipe de Tech Café de proposer des contenus qui ne parlent pas forcément que de tech sous l'angle de l'actualité chaude, mais aussi de tout ce qui tourne autour. Et même, je pense qu'on va être assez large dans la philosophie de ces nouveaux formats d'émission Paraculte. L'idée, c'est de parler vraiment de choses qui nous plaisent du quotidien, des choses passées, des choses actuelles. Bref, des sujets sur lesquels on a envie de faire des recommandations. C'est un peu comme si on reprenait les bonus de Tech Café, mais qu'on en faisait des épisodes à part entière. L'idée aussi, c'est que ce soit pas forcément moi qui soit beaucoup présent dans ces épisodes. A priori, il y aura régulièrement Guillaume Poggiaspala, Tom Comte, qui ont déjà tenu la barre de quelques épisodes en toute autonomie. Et je vous présente donc ce tout premier pilote. Je rajoute ce petit segment pour vous introduire un petit peu cet épisode. Et surtout, pour vous demander un service. Bon, maintenant que vous avez écouté ces quelques premières secondes d'épisode, je pense que vous allez l'écouter jusqu'au bout, hein, n'est-ce pas? Et puis, quand vous l'aurez écouté en entier, prenez le temps d'aller sur techcafé.fr, sur la publication qui accompagne cet épisode, ou en allant dans les notes de ce podcast, vous avez un lien. Et dans les deux cas, en tout cas, ça vous amène sur un questionnaire en ligne, un sondage Google Form, tout ce qu'il y a de plus simple, où il y a 5 questions que je vous pose pour tout simplement vous demander un petit peu ce que vous souhaiteriez qu'on fasse de ce format. Peut-être que vous allez le détester, auquel cas vous allez nous le dire. Dites-nous pourquoi, évidemment. Si vous l'appréciez, bah, c'est bien. Vous allez pouvoir aussi vous prononcer un petit peu sur le format, la régularité, la durée. Et le cas échéant aussi, nous dire si jamais c'est quelque chose que vous souhaiteriez avoir toujours dans le flux de Tech Café, ou si vous souhaiteriez plutôt l'avoir dans un flux à part entière. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont dire « Ah, ça dépend du format, ça dépend du rythme, etc. » N'hésitez pas à le préciser, auquel cas dans les commentaires, mais c'est évidemment l'idée d'avoir un premier retour sur ce pilote. Je vous laisse dans la douce et belle compagnie de Guillaume Poggiaspala et de Tom Comte qui vous parle de PlayStation VR. Bonne émission!
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode pilote de Paraculte. Paraculte, c'est quoi? Ben oui, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de super bonus de Tech Café, un petit spin-off, on va dire. Bon, on peut même le considérer comme un nouveau podcast. Hein. Rien n'est gravé dans le marbre, hein. Mais le format, a priori, ça va être assez simple. C'est deux gars qui apportent chacun un sujet, ou peut-être même du même sujet, pourquoi pas, et qui discutent pendant pas trop longtemps. On va essayer d'avoir un format raisonnablement court, ou raisonnablement long. Enfin, on va essayer de ne pas vous saouler.
Ça dépendra.
Alors, ça va dépendre. En ce qui concerne les sujets, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être film, livre, BD, manga, jeux vidéo, musique, cuisine orientale, beauté, animaux de compagnie, santé, bien-être, voilà tout ça. Non, on va peut-être rester plutôt pop culture, ne serait-ce que pour préserver nos propres compétences dans les matières. Alors, ça ne sera pas forcément des sujets d'actu, notez bien, on pourra parler d'un bouquin sorti il y a 20 ans.
Exactement.
D'un jeu sorti le mois dernier. Parce qu'à Paraculte, on est libre comme de vifs étalons des plaines.
C'est magnifique.
Qui galopent comme ça dans le vent. Et le titre Paraculte, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut aussi dire qu'on pourra parler de choses qui sont cultes, ou pas tout à fait, c'est-à-dire presque cultes, mais que nous, on aura apprécié, qui nous auront marqué, enfin voilà. Donc, qui ça, nous, c'est vrai. Mais globalement, déjà, l'équipe de Tech Café, donc il y aura moi, pas forcément obligatoirement, mais enfin, il y aura moi souvent, je pense, et Guillaume Poggiaspala, mais aussi tous ceux qui voudront partager un kiff avec vous. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Tom Comte.
Oui.
Comment ça va, Tom?
Ça va bien, écoute, j'aurais pas fait une meilleure intro que ça.
Ouais, écoute, merci beaucoup. Pas trop le trac pour ce pilote?
Non, ça va, on devrait se débrouiller, on va essayer de faire court, mais essayer, c'est pas forcément réussir.
Exactement. Alors là, j'ai dit qu'on parlait de deux sujets, mais finalement, on est tombé d'accord pour ce premier épisode pour parler de quelque chose qu'on a bien aimé, nous, cette année. C'est le PSVR. On est
ouais.
D'accord. Voilà, en ce qui nous concerne, on va parler du PSVR parce que c'est vrai que les prix ont drastiquement baissé sur le casque, hein. Je me souviens qu'à Noël, il y avait quand même un pack qui était soldé à 229 € avec 5 jeux. Et des très bons jeux, hein, et la caméra et tout. Faut pas oublier qu'à la sortie en 2016, le casque était proposé à 400 balles. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas la caméra, donc il y avait des coûts cachés. Alors qu'aujourd'hui, franchement, c'est assez simple de trouver des casques d'occasion dans les 200 €, quoi, un peu plus, un peu moins. Les jeux sont pas chers, vous pouvez régulièrement avoir des jeux VR à 20 balles. Alors du coup, à ce prix-là, la question se pose plus que jamais quand même. Hein. On craque ou pas ?
On craque, complètement. Complètement, moi j'ai craqué il y a un peu plus d'un an maintenant. Et si je ne l'utilisais pas dans les premiers mois, c'est quelque chose qui est régulièrement branché sous ma PlayStation maintenant.
Écoute, moi aussi j'ai le PSVR depuis quelques mois, on pourra donc vous en parler sans langue de bois, parce que, bon, même si, voilà, c'est pas un scoop, hein, si vous écoutez Tête Café, donc Tom et moi, on trouve que c'est quand même bien cool. Mais je suis aussi quand même le premier à reconnaître que le PSVR, et même la VR en général, aujourd'hui, là, à l'instant T, c'est encore très perfectible. Et qu'il y a donc une bonne marge de progression, et finalement ça dans tous les domaines imaginables. En plus, moi je précise que j'ai une PS4 normale, j'ai pas une PS4 Pro, et c'est vrai qu'il permet, enfin la PS4 Pro permet d'améliorer un petit peu, oui, les choses sur, au niveau de l'aliasing, du rendu fovéal, etc. Donc moi j'en profite pas, donc j'ai vraiment l'expérience de base que pourrait avoir la majorité des joueurs, je dirais, s'ils achetaient un PSVR demain. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a quand même des jeux inratables. Et le cœur du sujet est un petit peu là aujourd'hui, hein. On peut dire qu'il y a suffisamment de jeux PSVR pour vous amuser vraiment, et pas juste déconner 2 heures avec les potes et mettre le casque au placard, hein, comme c'est un petit peu, tu vois, l'effet raclette, quoi. Exactement, c'est un petit peu, ça va un petit peu plus loin que ça. Alors déjà, tout simplement, le pack que j'évoquais, là, ce pack le plus intéressant, le pack de 5 jeux, bah, c'est des jeux qui sont finalement très bien choisis. Voilà. Et quels sont-ils? Alors, je sais qu'il n'est pas dans ta liste parce que c'est pas un jeu extrêmement intéressant forcément en soi, mais PlayStation VR Worlds, moi je le mettrai quand même dans la liste parce que c'est une collection de mini-jeux qui est pas mal foutue. Déjà, il y a London Heist qui est pas facile mais qui est assez sympa, c'est un simulateur de gangster à Londres. Vrai. Et il y a surtout des trucs qui sont très accessibles, des expériences qui pourront permettre de faire tester la VR à des gens qui jouent pas aux jeux vidéo du tout, qui sont un peu intimidés par le truc. Je pense évidemment à l'expérience de sous l'eau, là, tu sais, avec les requins, tu es dans une cage à requins, tu descends comme ça dans les fonds marins, il y a absolument rien à faire. Il y a aussi cette espèce de pong avec la tête qu'on joue comme ça en 3D. Oui. C'est des choses qui sont extrêmement simples et qui peuvent donc être une porte d'entrée vers la VR. Et que c'est finalement, VR World, c'est pas mal pour faire essayer la VR à des gens qui sont un petit peu...
Ce pack me rappelle un peu le pack Wii Sport qu'il y avait avec la Wii à l'époque, tu sais, avec le bowling, avec tous ces trucs-là qui te permettaient justement d'appréhender la nouvelle technologie. Et c'est vrai que moi, pour l'avoir fait essayer, et spécialement celui de la descendre sous l'eau avec les requins, c'est très drôle de voir la réaction des gens.
Alors moi je l'ai utilisé déjà plusieurs fois sur plein de gens différents pour leur faire, disons, une première expérience, et ça marchait toujours super, vraiment super bien. Par contre, il faut bien voir aussi qu'il y a des jeux qui sont pas forcément, enfin, dans cette compile, il y a des petits jeux, des mini-jeux qui sont moins réussis. Moi je penserais à Scavenger Hunt, qui pourrait être réussi s'il filait pas la gerbe. Moi, il m'a filé la gerbe. Parce que c'est vrai, voilà, on va quand même le dire, hein, c'est vrai, oui, la VR donne la nausée. En tout cas, certains jeux VR peuvent donner la nausée, et plus ou moins selon les gens. Alors, c'est aussi connu sous le nom de cinétose. Globalement, c'est une variante du mal des transports. Et c'est un fléau sur certains jeux. Grosso modo, quand ça bouge vite et dans un petit peu trop de direction, bah, ça peut donner la nausée. Alors, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont être sensibles à la nausée tout de suite. Certains, ça va prendre un quart d'heure, 1 minute. Et puis, ça va beaucoup dépendre des jeux. Mais heureusement, il y a beaucoup de titres où il n'y a pas de problème.
Alors, on vous a préparé aussi une liste de jeux auxquels on a joué, en tout cas qu'on a tous essayé. Et on vous a mis justement la notion de mal des transports, de motion sickness. Mais alors, c'est toujours très relatif puisque c'est par rapport à nous. Moi, je sais que je me suis énormément habitué par rapport au motion sickness, par rapport à mes débuts sur PSVR. Je sais que j'ai des petits trucs et astuces aussi. Quand je suis fatigué, je suis beaucoup plus sensible. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en général, quand je suis plutôt couvert, j'ai une tendance à transpirer et à nouveau à pas être très bien. Et je bois beaucoup pendant que je joue au PSVR et j'ai remarqué que ça me faisait énormément de bien pour éviter le motion sickness.
Effectivement, alors tu vois, ça dépend des jeux, donc c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont... Alors, les titres doivent être pensés pour ça. C'est vrai que quand ça bouge pas ou quand ça bouge de manière vraiment particulièrement douce, ça passe, hein, sans problème. Il y a des solutions, comme la téléportation ou la restriction du champ de vision, qui peuvent marcher. Alors, perso, moi j'ai pas de problème avec Wipeout, mais qui va pourtant vraiment très très vite, hein, alors que j'ai joué à Megaton Rainfall, et au bout de 20 minutes, c'est fini, je peux plus jouer, quoi. Et pourtant, c'est un jeu qui va aussi très vite, on pourrait dire que c'est la même chose, mais en fait, pas du tout, parce que dans Wipeout, on va toujours dans le même sens, quelque part, on est dans un vaisseau, alors que dans Megaton Rainfall, qui est un simulateur de Superman, donc évidemment, c'est relativement sympa comme, oui, comme truc, mais le problème, c'est que tu te déplaces non seulement vers l'avant, mais aussi tu peux faire du strafe, c'est-à-dire tu peux peut-être te décaler vers la gauche, vers la droite, ou tu peux reculer, et tout ça, ça fait des mouvements qui sont assez rapides, qui sont très variés, qui peuvent avoir... Enfin, là, c'est vraiment très très compliqué pour le cerveau. Alors, il y a aussi... malheureusement des jeux où on bouge pas très très vite et qui filent la gerbe, et là c'est très étrange parce que par exemple il y a Here They Lie qui est un jeu d'horreur qui est donc une sorte de walking simulator d'horreur qui est extrêmement efficace, bah, je veux dire, moi j'ai vraiment eu peur, donc c'est vraiment affreux, mais le problème c'est qu'il file la gerbe. Alors que pourtant, vous marchez pas forcément vite. Alors que Resident Evil 7, qui est aussi un jeu d'horreur dans lequel vous marchez en vue subjective, eh ben non. Donc du coup, vraiment, parfois, c'est très très subtil. Il y a des fois, effectivement, juste parce que le jeu se décale quand vous tournez la tête ou pas, ça peut donner des problèmes, donc il faut pas, faut voir. Donc faut pas s'affoler, faut pas insister, évidemment, si on joue
pas. Non.
Pas hein, c'est
surtout,
clair.
Surtout
si vous
pas.
Insistez, ce sera
ça
pire.
Ça peut aller jusqu'à plusieurs heures de mal-être. Vraiment.
Exactement, oui, tout à fait. Vous pouvez vous sentir en nausée pendant plusieurs heures, c'est vraiment pas sympa. Donc, si ça va pas, bah, il faut arrêter, et puis c'est tout. Voilà, donc VR World, c'est pas incroyable, mais c'est à condition des démos sympas, voilà,
alors,
des trucs qui démontrent bien le potentiel.
C'est dans VR World qu'il y a aussi la première apparition de mon personnage culte, moi, enfin de mes personnages cultes, des Astrobots.
Non, c'est dans le plan.
Voilà,
VR.
C'est ça, excuse-moi.
Alors ça, c'est l'indispensable, évidemment, de toute façon, c'est gratuit, donc téléchargez immédiatement le Playroom VR, bien entendu. Parce que là, effectivement, il y a les premières... Enfin, c'est la première apparition de l'univers Astrobot. Et évidemment, l'univers Astrobot, je pense que tu peux pas ne pas en parler, Stone.
Ouais, l'Astrobot Rescue Mission, donc c'est ma pépite. Alors, il y en a qui vont dire que c'est Red Dead Redemption, le jeu de l'année 2018. Pour moi, c'est Astrobot. Je pense qu'il y a un avant et un après Astrobot, sincèrement. Alors, j'avais déjà beaucoup aimé dans le Playroom VR. C'est vrai que c'était sympa, on pouvait y jouer à plusieurs. C'est vrai que le jeu que j'appréciais le plus et auquel on a le plus joué avec mes enfants, c'est le jeu qui se passe au Far West. Tu sais, où les gens doivent
oui,
t'aider
oui,
à,
dois, oui,
à,
oui.
À, à...
Oui, alors ce qui est intéressant aussi dans le Playroom, c'est vrai que c'est bien de le mentionner, c'est que ça montre qu'en fait, on peut faire des jeux VR qui sont à gameplay asymétrique, ouais. Et qui impliquent donc tout le monde. On peut jouer à plusieurs, alors avec un en VR et un à aider, enfin, les autres joueurs à l'extérieur. Et donc, effectivement, il y a des jeux avec... Alors, il y a le jeu de la souris, il y a le jeu dans le Far West, effectivement, qui sont vraiment rigolos parce que ça implique tout le monde. Donc, on peut être quatre, il y en a un dans le VR, il n'y a pas du tout d'isolation.
Jusqu'à cinq même, car sur celui où on joue, donc le dragon qui détruit la ville, on est contre quatre adversaires avec des manettes et ça part très très vite en gros pugilat et en gros bordel à la maison, et c'est génial.
Exactement. Mais alors voilà, et donc évidemment dans le tas, il y a un jeu de plateforme tout simplement qui est donc Rescue Mission, je sais plus, non, c'est ce qui est donc la sorte de préquel à Rescue Mission. Qui est clairement absolument magnifique déjà dans le Playroom VR, ça vous donnera une excellente idée. Il y a une démo d'Astro. Et bon, pour avoir pas testé, moi j'ai pas testé le jeu complet encore, hein, mais j'ai testé les deux, la démo et le Playroom VR. C'est vrai que c'est extrêmement mignon, c'est bourré d'inventivité. Et il y a une immersion qui est vraiment extraordinaire. Enfin, alors, faut expliquer peut-être le principe, vous chopez des petits robots qui sont cachés dans le décor. Et du coup, et quand vous les trouvez, bah, vous. Vous envoyez votre astro, donc vous contrôlez un petit robot, et ce petit robot, il met des coups de pied au cul aux robots qu'il trouve pour les renvoyer dans votre manette. C'est extrêmement mignon, et c'est là où on voit l'avantage de la VR, c'est que justement, pour trouver les secrets et tout ça, il faut bouger. C'est ça, Tom, il faut essayer d'observer.
C'est ça, il y a des plateformes qui sont parfois à moitié cachées, où il y a des fois où il faut s'avancer, où il y a des fois où il faut même casser certaines parties du décor avec sa propre tête, ou affronter des adversaires à nouveau au ballon. C'est plutôt rigolo, et c'est vrai que parfois c'est assez compliqué. Mais c'est un peu comme si on était bombardé au milieu d'un Mario et qu'on était vraiment dans le monde. Et donc, il y a une notion de profondeur par rapport à tes sauts. Il y a une notion de tu es dans le monde. Tu te sens vraiment partie de ce monde. D'ailleurs, tu peux regarder, entre guillemets, ton corps. Donc, tu es une espèce de petit robot avec une tête carrée qui ressemble à un robot des années 80. Alors moi, j'ai été complètement bluffé parce que c'est vrai que, comme je le répète des fois aussi dans Tech Café, ça m'arrive, je pense que ce qui fait la différence au niveau de la technologie et des nouvelles technologies, c'est les interfaces et c'est la façon d'interagir avec ces interfaces. J'ai l'impression qu'Astrobot, il y a quelque chose qui s'est passé dans la gestion de l'interaction dans le monde et par rapport à ce qu'on joue. C'est vrai que les plus anciens jeux qu'on a sur PSVR, bah c'est assez classique. Tu conduis quelque chose, ça peut être un méca, ça peut être une voiture. Tu tires sur des trucs. C'était très beaucoup de la même chose au départ. Bon, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et puis ils ont commencé à trouver des moyens de pas te foutre la gerbe déjà, ce qui était assez intéressant. Et puis de t'intégrer vraiment dans le monde. Et moi, je dois avouer que il y a des niveaux d'Astrobot. Enfin, le niveau sous la mer, il est incroyable. Et celui, tu y as pas joué, mais il y a un niveau dans une baleine où la baleine respire et donc l'eau monte et descend dans le ventre de la baleine. Et toi, tu te prends l'eau au-dessus du casque et sous le casque, et à chaque fois qu'elle vient taper dans ton casque, c'est vraiment impressionnant. Donc tu te prends à te baisser, à te lever. C'est un jeu qui est, comme beaucoup de jeux VR, il te faut de la place. Moins que dans certains autres qu'on va citer après, mais il te faut quand même de la place parce que tu as une tendance à chercher dans les décors, à te baisser pour éviter, parce que si tu te prends, par exemple, il y a des canons qui crachent des boules un peu comme dans les jeux de Mario. Si tu le prends dans le casque, ton casque se brise entre guillemets. Donc pendant quelques instants, t'es aveuglé. Il y a des ennemis qui crachent de l'encre. Quand tu prends l'encre sur le casque, c'est pareil. Pendant quelques instants, t'es aveuglé. Donc il y a vraiment de l'interaction. Il y a vraiment il y a des fois des choses que tu dois faire toi-même de ton côté en dirigeant ton robot. Donc ça demande un équilibre et une gestion de la 3D qui est absolument géniale.
Oui, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes dans Astrobot. C'est que d'une part, c'est vrai que c'est une plateforme en 3D dans lequel tu vois le relief, tu vois la 3D. Donc du coup, tu peux jauger la profondeur. Ce qui est notablement difficile à faire dans un jeu en 3D sur un écran, quoi. Du coup, ça aide pour les sauts, ça aide effectivement à l'immersion. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la VR permet une présence physique, tout simplement, du joueur à l'intérieur du monde du jeu. C'est-à-dire, c'est pas juste Mario qui est présent physiquement à l'intérieur d'un jeu Mario. Là, tu as ton Mario, donc c'est le petit robot, mais tu es aussi dedans. Et du coup, il y a toute une série d'interactions supplémentaires, exactement, qui peut émerger de ça. Alors, on peut aussi se demander, mais est-ce que je peux jouer à des voilà, parce qu'il y a aussi des jeux qui sont moins bien pensés que ça, et comment ça marche? Alors du coup, moi, c'est vrai que, d'ailleurs, qui est dans le pack, il y a Skyrim VR, donc c'est vraiment un jeu qui n'est pas nouveau, on va dire. C'est un jeu qui est trouvable pas très très cher d'occasion non plus, hein. C'est un jeu que vous pourrez retrouver à 30€,
voire moins,
un truc comme ça, il y a des soldes régulièrement. Et donc, bon, moi, je l'ai pris il y a quelques temps, et franchement, je suis carrément étonné de voir à quel point j'ai replongé, parce qu'au début, franchement, j'étais réservé, tu vois. Le jeu, déjà, il est moche comme un pou, hein, faut le dire. Il a la tronche d'il y a 8 ans,
ah
quoi,
oui, c'est clair.
Avec les textures et les modèles d'il y a 8 ans. Donc, normalement, il y a du popping en pagaille, le level of detail, le load, là, est très, très agressif. Oui. Il y a des bugs, toujours. De la séquence d'intro, il y avait des bugs. C'est vraiment comme à l'époque, tu vois, on reconnaît notre bon vieux Skyrim de 2011, ça, il n'y a pas de souci. Pourtant, bon, bah, tu te balades à l'intérieur des paysages que tu connais bien, parce que moi j'ai fait Skyrim à la grande époque, et c'est vrai que bah, c'est fou parce que tout est à taille réelle, quoi. Donc les PNJ, ils sont devant toi. Et je me suis surpris, parce que c'est vrai que les PNJ, tu les calcules pas des masses forcément, tu vois, et tout le monde te parle dans ce jeu, tu traces, et puis voilà. Mais quand ils se plantent devant toi et qu'ils te parlent, c'est pas pareil.
Ouais.
Du coup, tu les écoutes plus. Tu parles plus avec les PNJ, je trouve, parce que c'est plus naturel, tout simplement. Ils sont là, ils te parlent, ils te regardent, ben voilà, donc tu écoutes ce qu'ils disent. Les dragons aussi sont intégrés.
Oui, oui, alors c'est très impressionnant.
Ça change tout. Et c'est vrai que ouais, Skyrim m'a vraiment immergé, quoi. Et j'ai même trop joué, parce que j'ai joué 3h30 d'affilée. Je me suis retrouvé avec une nausée, hein, je le cache pas. Parce que, bah, effectivement, le jeu bouge pas trop, forcément, mais faut s'habituer, quoi. Moi, je joue à la manette, et donc pendant les combats, on doit quand même se déplacer un peu vite, tu sais. Bon, voilà, c'est à la longue, bah, c'est un petit peu dur quand même. Donc, tu as raison, faut rester raisonnable, faut faire des pauses, mais bon, en faisant des pauses, ça reste gérable. Puis il y a des options aussi, hein. Y a toujours dans ces jeux, il y a beaucoup d'options de confort, donc il y a restriction du champ de vision, téléportation, etc. Moi, je ne suis pas fan de Skyrim VR avec les moves. Je ne sais pas si tu as essayé.
J'ai essayé, ouais. C'est vrai qu'il y a un décalage des fois entre ton mouvement, justement, et la réaction du personnage. Ça peut être assez gênant.
Ouais, et puis il y a beaucoup de boutons. Enfin, tu sais, il y a des boutons sur les
moves. Ils sont très mal placés. Ouais. C'est pas du tout fait pour la VR, les moves de base, hein, quand même.
Alors, les moves, voilà, c'est exact. Les moves ne sont pas faits pour la VR de base. C'est vraiment du bricolage. Ça, hein, on en reparlera. Mais clairement, ils ont repris ça de la PS3. C'est malin parce que ça coûte pas cher. C'est déjà disponible. Ils ne faisaient pas fabriquer des trucs spécifiques. C'est très très malin. Mais c'est pas extrême. C'est pas extrêmement. Voilà, c'est pas vraiment.
Il y a des jeux où ça marche très bien. Bon.
Oui, alors ça, c'est clair qu'il y a des jeux où ça marche très bien. Alors moi, j'ai donc. Toi, t'as testé Doom VFR ?
Oui, oui.
Tu les joues au move, justement, oui. Ou... Parce que moi, j'ai pas testé, j'ai même un peu peur, parce que je te dis, c'est tellement rapide. Ouais. Je sais que tu peux jouer à la manette.
Je peux jouer à la manette, mais ici, avec mon fils, on y joue avec les PlayStation Move. Et bah, au final, c'est vraiment très, très fun. C'est vraiment très, très fun, parce que comme tu le disais, quand t'as un démon de l'enfer qui te charge. Bah, c'est pas pareil. T'as une tendance à rentrer très rapidement en panique si tu fais pas attention. Et c'est très impressionnant. Ouais. C'est quand même très impressionnant. C'est très fun à jouer. Ça a été intelligemment adapté. Alors, c'est pas le Doom qu'on a eu, qui est sorti il y a 2 ans. Mais c'en est une adaptation et elle est très bien faite. Je pense que pour en faire le tour, il faut 5-6 heures, quelque chose comme ça, pas plus. C'est pas très très long. Mais c'est une très très bonne expérience. Ouais. C'est assez impressionnant.
Alors moi, c'est vrai qu'en VR, du coup, se pose la question, c'est une nouvelle interface, donc se pose la question des contrôleurs. Bon, moi, par exemple, il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. J'ai Farpoint, mais malheureusement, j'ai Farpoint sans le aim controller.
Le aim controller, c'est merveilleux. Ça change ta manière de jouer quand même.
Ah oui, parce que Farpoint, il est beau, c'est un beau FPS en VR qui est bien foutu. Il y a Firewall, il y a Évasion aussi, qui sont des titres principalement multi pour le coup, mais qui sont aussi des beaux FPS plutôt bien foutus. Il y a Borderlands 2 d'ailleurs aussi, qui est un titre très marrant qui vient de sortir, que j'ai pas joué. Donc il y a des beaux trucs, il y a des beaux jeux, mais c'est vrai que Farpoint, il est bien réalisé. Ouais. Mais sans aim controller, franchement,
c'est moins fun.
La manette, c'est surtout que tu vois à quel point c'est du bricolage. Parce que quand tu as la manette donc, bah, en fait, le principe c'est que la manette représente ton fusil, ta mitrailleuse, ce genre de truc, quoi. Donc en gros, l'orientation de ta manette est répliquée au jeu, et donc tu as tes deux bras comme ça qui tiennent le truc, et du coup tu vises en orientant ta manette. Et c'est malin, sauf que c'est extrêmement plus précis, en fait. C'est
un
gros, gros souci. C'est vraiment pas précis. Il y a une dérive qui fait que ta manette, elle se retrouve à 90 degrés alors que t'es droit. Ouais. Bon, il faut... C'est vraiment, vraiment, vraiment très chiant. Moi, ça m'a cassé le jeu parce que au début, le jeu est pas très dur, mais dans les niveaux plus élevés, ben, ça devient critique. Ah. Avoir de la précision, c'est devient critique.
Les trois jeux d'ailleurs que je retiens qui sont vraiment... Où ils changent complètement, ils prennent une autre dimension. Donc c'est vraiment Farpoint. Firewall, c'est Counter-Strike en VR. Si vous voulez essayer quelque chose d'immersif, c'est bluffant. Firewall, je pourrais y passer des heures, vraiment. Il y a Arizona Sunshine aussi, qui change énormément quand tu joues au M-Controller. Et aujourd'hui, c'est quand même tu as pas mal de packs que tu peux trouver à une soixantaine d'euros avec un de ces jeux-là et le M-Controller. Et moi je le conseille vraiment. C'est vrai que si tu veux jouer en VR, c'est dommage de passer à côté. C'est vrai que ça change énormément la donne. Un jeu que j'ai pas du tout aimé, par exemple, parce qu'on peut pas y jouer avec... On est obligé d'y jouer avec la manette, et c'est dommage, et je pense que c'est ça aussi, à part le fait qu'il te fout la gerbe au bout de quelques secondes, c'est Robinson. Robinson The Journey.
Ah, pas testé.
Alors, il était bien... Mais au bout de 10 minutes, j'ai mal au crâne, un très fort mal au crâne. C'est même pas j'ai envie de gerber, c'est qu'il me fout mal au crâne. C'est encore une autre sensation. On peut y jouer qu'à la manette. Alors des fois, c'est bizarre parce que tu dois escalader des trucs. Et je t'avoue qu'escalader un mur à la manette, c'est assez étrange. Alors qu'au PlayStation Move, ça le fait. Mais on peut pas y jouer au PlayStation Move. Et j'imagine que si ça avait été adapté, ce serait peut-être meilleur. Voilà.
Ouais, probablement. Non, mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui bénéficient effectivement du PlayStation Move énormément. Je pense que bon, tous les FPS, c'est quasiment. C'est quasi. En plus, bon, il faut savoir que. À la différence des trucs pour Oculus ou pour Vive, il n'y a pas de stick sur le PS, sur les PS Move, et donc on ne peut pas se déplacer vraiment c'est facilement, ça. En fait.
Ok, donc et par rapport au PS Move, je pense que le jeu qui m'a fait aimer le PS Move, vraiment, c'est Super Hot VR. Ça m'a mis une telle claque. Alors, Super Hot VR, pour l'expliquer, c'est un jeu qui est extrêmement stylisé. C'est-à-dire que il est pas texturé. C'est des personnages vraiment en 3D très très basiques. Toi, tu joues un espèce de tueur à gages invincible. Et l'idée en fait de Super Hot, c'est que si tu bouges pas, le temps s'arrête. Et donc, ça te donne le temps avec ta tête de réfléchir à ce que tu vas pouvoir faire, attraper un couteau, attraper un shotgun, et essayer d'éviter peut-être les tirs qui sont partis. Et c'est vraiment un truc. Alors, c'est extrêmement fatigant, puisque des fois, tu peux rester dans une position absolument inconfortable.
Mais tu fais ton yoga, en fait.
Ah, mais c'est clair. Et en fait, dès que tu rebouges tes bras ou tes mains, le temps reprend son cours. Et là, c'est le moment. Et tu te sens... c'est entre John Wick et Matrix. C'est formidable.
Ce qui est génial, c'est même que le temps reprend, mais les gens... Enfin, le temps se... comment dire, le temps passe aussi vite que tu bouges vite.
C'est-à-dire c'est
si
ça.
Si tu bouges lentement, le temps passe lentement. Si tu bouges vite, le temps bouge vite.
C'est ça. Donc, et tu peux coup, faire vraiment du bullet time.
Tu fais du tai chi. C'est vraiment du tai chi. Tu bouges très lentement pour essayer d'éviter les balles et tout. C'est très, très rigolo. Oui. Non, ça, c'est vrai que Super Hot, c'est une vraie... C'est une vraie réussite, et c'était pas évident, parce que, justement, tu vois, dans ce qui est perfectible, moi, ça m'arrive quand même, de temps en temps, de sortir du cône de détection.
Oui.
Parce que, alors, comment le PSVR fonctionne, hein, c'est assez simple. Dans le PSVR, il y a donc un écran OLED qui projette les images, et puis il y a aussi un accéléromètre hein, qui peut avoir, enfin, qui peut donner donc l'orientation, la rotation de la tête. Mais il faut aussi pouvoir avoir les trois autres degrés, puisque on parle de 6 degrés de liberté. Alors pourquoi ? Ouais. Parce qu'il y a trois angles, et puis il y a trois... la position dans l'espace, donc il y a un vecteur voilà, de trois composantes. Donc évidemment, il faut savoir comment vous vous décalez, si vous vous agenouillez, etc. C'est ça, les trois autres degrés de liberté. Et pour faire ça, ben, le casque ne peut pas le faire tout seul. Il faut une petite caméra, et donc la PlayStation Eye, donc c'est une caméra avec deux petits yeux, qui permet d'avoir une idée de la profondeur que vous branchez à la PS4. Et donc ce truc-là qui n'était pas non plus, enfin qui n'était pas du tout pensé pour la VR, hein, puisque le PlayStation Eye ouais. C'était un périphérique qui est sorti avec la console, et bon voilà, c'était une caméra pour ce que vous voulez, hein, qui était l'héritière de l'iToy de la PlayStation 2 d'ailleurs,
c'est
mais
ça.
Bon, toujours est-il que ce truc-là a été recyclé en truc en reconnaissance optique, et c'est très malin, parce que c'est pas cher du tout, parce que ça marche très bien, mais ça a aussi un problème, c'est que du coup, bah, vous devez être dans le cône de la caméra pour pouvoir bénéficier du repérage. Et quand vous en sortez, bah, c'est fini, le jeu se termine, enfin, le jeu est complètement paumé. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une bonne détection, mais sur un mètre carré à peu près, au sol. Et il faut rester dans ce mètre carré, et du coup, bah, y a des jeux, si tu veux, où tu as naturellement tendance à bouger pas mal, où tu vas avoir assez facilement tendance à sortir. Alors, dans Super Hot, c'est pas trop le cas, parce que c'est plutôt bien fait, mais ça peut quand même arriver, quand vous avez des trucs qui tombent par terre, par exemple. Bon. Mais il y a des jeux où c'est plus compliqué. Par exemple, je sais pas, Raw Data,
oui.
Si vous excitez un petit peu, c'est assez facile de sortir. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont perfectibles, et c'est vrai que c'est des choses aussi qui probablement vont disparaître, puisque soit il faut prendre des capteurs qui sont plus sophistiqués, comme c'est le cas sur le Vive, soit... La tendance, clairement, c'est d'intégrer la caméra au casque. Vous voulez avoir une caméra sur la télé, vous avez la caméra dans le casque, et c'est le casque qui voit où il est,
c'est
qui
ça,
en déduit
ouais.
sa position. C'est le tracking inside out, et clairement, c'est un truc qu'on attend avec impatience pour le PSVR 2, parce que, franchement, sortir du cône, c'est vraiment
ouais.
chiant. Quoi.
Mais il n'y a pas que ça. Moi, un petit conseil, si vous jouez comme ça, alors moi, il faut voir que j'ai à peu près 4 mètres carrés réservés à ma zone de jeu. Et alors, il m'est arrivé une merde justement avec Super Hot, et pour que ça vous arrive pas, je vous conseille devant votre télé ou devant votre meuble télé de mettre en fait une couverture. Alors pourquoi une couverture qui soit pliée sur environ 70 à 80 cm? Pour une raison pure et simple, c'est que quand vous allez trop avancer, vous allez la sentir. Parce que moi, avec Super Hot, j'ai punché ma télévision. j'ai mis un énorme coup de poing dans ma télévision. Pourquoi ? Parce que je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus du tout dans quel sens j'étais. J'étais dans le jeu, j'étais à fond dans le jeu, et d'un coup je me suis retourné pour puncher un mec, sauf qu'il était à peu près au niveau de ma télévision. Donc j'ai réussi à retenir ma télévision avec mon autre bras, mais j'ai quand même mis un gros coup dans la télévision qui a eu très mal. Donc, pour vous éviter ce genre de choses, mettez-vous des repères, parce qu'on peut être très très vite perdu sur ce genre de jeu. Je vous assure que c'est bluffant du coup. Parfois, on enlève le casque et on ne sait plus dans quel sens on est. On était assis sur le canapé, on est parti du canapé, on est tourné, on est vers la fenêtre et on est complètement dans un sens qu'on n'avait pas prévu. Donc, méfiez-vous.
C'est un truc qui arrive très souvent, ça, parce que justement. Dans les jeux, on a souvent l'habitude de s'orienter avec la manette.
C'est ça.
Du coup, on est toujours face à la télé. Là, y a beaucoup de jeux en fait où c'est un hybride des deux, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux. C'est un peu le cas dans Skyrim en fait. Hein.
C'est
ça. Skyrim, si tu joues debout, tu peux avancer à la manette, tu peux te tourner physiquement et après tu peux continuer à avancer, sauf que tu es plus face à la télé, tu peux faire plusieurs tours comme ça.
C'est ça.
Alors heureusement, le PSVR est aussi localisé par l'arrière, puisqu'il a des LED à l'arrière du crâne aussi,
oui,
qui permettent de continuer à localiser. Mais bon, le problème, c'est que ça marche un peu moins bien, mais surtout, tu t'enroules dans le fil, ce qui est jamais très très bon. Alors c'est vrai que moi aussi, j'ai donné des coups dans mes placards ou dans la porte, parce que voilà, tu
j'ai
sais
pété
plus
une lampe,
quoi. Ah oui, quand même.
Ah ouais.
T'es un furieux.
Mais si tu veux, il y a des jeux qui s'y prêtent. Moi, il y a des jeux qui peuvent être des tue-famille, hein, comme j'ai dit. Hein. Je veux dire, ta femme, elle passe, ton gamin, il passe, tu lui mets une patate, voilà, c'est les services sociaux. Hein. Donc, il faut prévenir les gens de ce à quoi tu joues aussi. Et je rigole pas, par exemple, quand tu joues à Beat Saber, mais s'il y a quelqu'un qui passe...
Beat Saber, tu bouges pas trop, non ? Tu es fixe dans le monde.
Ouais, mais tu fais des très grands mouvements avec tes bras et ça peut aller très très vite. Donc, si tu veux, si vous avez des animaux, si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint, prévenez-le, faut pas qu'il passe. Si vous avez des lampes, mettez-vous des repères parce que ça va très très vite. Ça va très très vite et vous pouvez vous faire très très mal. Vraiment.
Alors, il faut dire aussi, on confirme, hein, vous avez l'air débile quand vous jouez à la VR, ça c'est complètement vrai.
C'est
mais ce qui est sympa quand même, c'est que, évidemment, ce qui se passe dans votre casque est répliqué sur la télé. Si vous allumez la VR, vous pouvez très bien jouer télé, tant d'ailleurs, hein, c'est à vous de voir.
C'est vrai.
Mais bon, si vous allumez la télé, les gens voient et entendent ce que vous voyez et entendez sur la télé. Et du coup, ils peuvent quand même participer. Et du coup, il y a un côté participatif, même si le
c'est
jeu
vrai.
Et ça, c'est quand même assez sympa. Bon, donc tu parlais de Beat Saber, qui est clairement le meilleur jeu de rythme du PSVR, et qui est vraiment très sympa. Et ça fait partie des jeux, effectivement, où on ne bouge pas trop, puisque toi, ta position est fixe, et tu ne bouges que les bras. C'est un petit peu comme Rush of Blood, d'ailleurs,
ouais,
qui est un train fantôme qui est de bonne facture, je trouve.
Ouais, oui, oui.
C'est pas extraordinaire, hein, ça reste un rail shooter, voilà. Mais c'est bien foutu, ça, c'est vrai que ça fout les boules. Et c'est quand même pas mal. Il y a plein de jeux comme ça où on reste fixe, ou presque fixe. C'est des jeux qui sont bien adaptés, je trouve, effectivement, comme tu disais, au Move. Il y a Job Simulator, par exemple, ou il y a Keep Talking and Nobody Explodes aussi, qui est en plus un jeu participatif. Il y a Static, qui est dans le même style aussi,
qui est formidable, Static, puisque ça ne se joue qu'à la manette, et t'as les mains prises dans une espèce de boîte, et il faut réussir à t'en sortir. C'est un espèce de Rubik's Cube en VR, c'est absolument formidable.
Oui, sinon, il y a vraiment plein de trucs à la manette qui se jouent très bien aussi. Il y a Tetris Effect, évidemment.
Ah mon dieu, alors ça
pas la peine de champignons hallucinogènes.
Ah
hein,
non, mais là c'est Tetris Effect, tu passes des heures dedans, et après, t'es complètement à l'ouest. Hein. C'est fou, c'est une expérience. Hein.
Ouais, avec un bon casque et le VR, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et il paraît que c'est mieux en PS4 Pro. Moi, j'ai pas pu
comparer, parce que moi, j'ai une PS4 Pro, effectivement, mais les effets sont... c'est bluffant, quoi. C'est des papas de Lumines, le jeu qui était sorti il y a très longtemps sur PS Vita aussi. Vous jouez à Tetris, mais autour, il se passe plein de choses, et c'est complètement psychédélique. Et c'est vrai que moi je sais pas, je peux vraiment jouer très longtemps à celui-là aussi. Il y a vraiment des jeux auxquels je peux jouer plusieurs heures et il y a d'autres où je peux pas. Mais celui-là c'est un de mes favoris aussi.
Oui, c'est ça. Alors donc là, bon, vous l'aurez compris, hein, oui, il y a des bons jeux, il y a des vrais jeux sur le PSVR. Et c'est suffisamment fun pour, au prix actuel, je pense, justifier l'investissement. Alors par contre, voilà, faut bien garder à l'esprit que c'est vraiment une version 1.0 pour la VR. Pour moi, on est au point PlayStation 1, tu vois, la PlayStation, la première du nom.
C'est l'aube de la VR.
Voilà, vous vous souvenez peut-être hein, des débuts de la 3D avec la PS1, donc voilà, à cette époque, il faut se rappeler que la manette n'avait même pas de stick analogique. Ouais. C'était une manette de Super NES, hein, la manette de la PlayStation 1, hein, tout ça. Simplement. Ouais. Et les premiers jeux en 3D, bon, on va dire, c'est, toute nostalgie mise à part, c'était i2. C'était pixelisé à mort. Les polygones, y en avait, on pouvait les compter avec ses doigts. Voilà. Pourtant, bah, malgré tout, quand on a vu les premiers jeux de baston, les premiers jeux de course, le premier Crash Bandicoot, on a trouvé ça fou, parce qu'on n'avait jamais vu ça.
C'est ça.
Tu vois, je me demande encore hein, comment j'ai pu passer autant de temps sur un Tomb Raider 2, alors qu'il est, il est cubique,
on est d'accord.
Il est affreusement dur, il a des contrôles qui sont atrocement moisis, mais refaites-le, allez-y.
Ah non, c'est, dire, c'était pas mieux avant.
2, c'est affreux. Mais non, c'était pas mieux avant, c'était dégueulasse avant. Les Tomb Raider 2, c'est horrible à faire, parce que c'est vraiment très très dur, quoi. Et il faut quand même le reconnaître. Hein. Et aussi, ça aussi, parce que les contrôles, aussi, au début de la 3D, ben, les développeurs se sont vraiment cherchés.
Ah, voilà, c'est
il n'y avait pas de schéma standard, comme aujourd'hui. Il n'y avait même pas de stick analogique déjà, donc il n'y avait pas de schéma standard pour se balader dans un genre de 3D. Il a fallu expérimenter. Donc chaque jeu expérimentait avec des trucs, avec plus ou moins de bonheur, de, voilà, ben, des trucs tout bêtes. Hein. Comment bouger le perso, comment bouger la caméra, comment la faire suivre, etc. etc. Ben, la VR, c'est pareil aujourd'hui. Oui, c'est vrai, la VR, c'est pixelisé. Les jeux sont niveau PS3 au mieux, le casque est gros.
Attention, et... Astrobot, il est au niveau visuel, même en tout cas en PS Pro, il est au niveau visuel de certains jeux que tu peux voir sans VR, vraiment.
Oui, alors c'est aussi parce qu'il a un look un peu cartoon.
C'est ça.
C'est un look cartoon propre qui va très bien la VR. La VR, en fait, quand elle essaye de faire du photoréalisme, en général, elle se viande.
C'est marrant.
Et parce qu'elle n'arrive pas, donc c'est hyper pixelisé, les textures sont un peu dégueu. Par contre, quand elle choisit une DA qui est une DA beaucoup plus cartoon, avec des choses plus légères à afficher, elle peut se permettre de faire beaucoup mieux. Bon, il suffit de voir Skyrim. Hein. Skyrim, c'est un jeu qui date donc de la PS3. C'est la version PS3 que vous aurez dans le casque, malheureusement. Je sais bien entendu qu'il y a une version remasterisée. Ne vous attendez pas à la version remasterisée dans votre casque. Hein. Malheureusement, vous aurez droit à la version PS3. Et malgré ça, il y a encore des bugs. Donc, bon, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu plus ça, malheureusement, qu'il y a. Hein. C'est des jeux qui sont graphiquement un peu plus simples. Où effectivement il y a une pixelisation et un aliasing qui varie selon le truc. Parce qu'il paraît, dans Raw Data, par exemple, ça alias à mort. Chez moi. Mais chez toi, je pense que c'est beaucoup mieux
moins,
parce que la PS4 Pro permet, en gros, elle permet de faire du super sampling, hein, tout simplement.
C'est ça.
C'est-à-dire le plus simple que tu puisses faire sur une PS4 Pro pour le PSVR, c'est de faire du super sampling, c'est-à-dire tu rends à une résolution qui est supérieure à celle du casque et après tu fais un downsampling et ça fait de l'anti-aliasing et c'est très agréable parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, enfin moi je souffre pas mal sous Skyrim et sous Raw Data par exemple, mais entre autres, hein, d'un gros effet d'aliasing qu'il n'y a pas sur Wipeout.
Non.
Mais qui peut vraiment être gênant sur certains jeux. Et voilà, et par exemple aussi sur Resident Evil 7, si vous avez une PS4 normale et que vous jouez à Resident Evil 7, vous allez avoir un rendu fovéal, c'est-à-dire que sur la périphérie de l'image, les détails s'amenuisent, en fait. Alors ça, tu le vois pas beaucoup, mais tu le remarques quand même. Il paraît que sur PS4 Pro, ça disparaît. Bon, voilà, y a ce genre de truc, quoi. Donc... Oui, c'est vrai, le casque, il est perfectible, hein, voilà, il y a 6 degrés de liberté, mais par caméra, donc c'est 1 mètre carré, donc t'es pas trop libre de tes mouvements, les contrôles sont parfois aux fraises, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérimentation, ça commence petit à petit à se standardiser,
il y a vraiment eu un changement, je trouve. Au niveau de la précision, en tout cas, des mouvements, il y a des jeux comme le jeu Detached, qui se passe dans l'espace, où t'es... alors celui-là, faut pas trop avoir mal au cœur, c'est pareil, donc t'es en apesanteur, il y a des accélérations assez impressionnantes parfois, mais c'est assez précis en tout cas, tu as de la précision par rapport à ce que tu fais, et même parce que ce que tu disais tout à l'heure, Farpoint, même si c'est un des premiers jeux, au M Controller, il est vraiment plutôt précis. Donc il y a vraiment, c'est vrai, moi je parle toujours d'expérience et justement d'interface, mais je pense que ça arrive à maturité en fait. Ils arrivent à piger ce qu'ils font et ça devient bon. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a plus ce décalage. Des fois tu tirais, t'étais sûr d'avoir le mec, mais ton tir arrivait 2 mètres à côté quoi. Donc c'était vraiment perturbant et c'est vrai que c'était complètement perfectible.
Voilà, mais je pense que ça reflète vraiment les débuts de la 3D. Ouais. Au début de la 3D, bah, oui, voilà, bah, au début, on ne sait pas trop. Et puis après, petit à petit, déjà, Sony a sorti la manette avec les double sticks. Et puis, on a eu des jeux qui étaient vraiment bien jouables en 3D, même à la fin de la PS1, et évidemment sur PlayStation 2. Donc, c'est vrai que ça évolue, mais c'est vrai que déjà, comme au début de la 3D, hein, bah, on n'avait jamais vu ça. Il y a vraiment quelque chose de transformatif à jouer en VR. Ouais. Ça ne veut pas dire que tous les jeux doivent être en VR, hein.
Oh non.
Tous les autres jeux sont nuls, c'est sûr. Hein. C'est pareil que la 3D, encore une fois. Hein, les jeux en 3D n'ont pas tué, Dieu merci d'ailleurs, les jeux en 2D. Tu vois. C'est juste bah, une autre dimension.
C'est une autre manière de jouer.
Voilà, exactement. Et c'est peut-être ce qui est le plus transformatif avec cette génération de consoles, d'ailleurs. Hein, parce que jusqu'à présent, moi, je voyais les jeux PS4 comme des jeux PS3, mais en plus beau. Alors déjà, c'est très cool, c'est oui. Vrai. Mais enfin, c'est aussi un petit peu le minimum qu'on demande d'une nouvelle génération, tu vois.
C'est ça.
Donc en résumé, Il faut être conscient que la VR aujourd'hui, c'est loin d'être parfait, qu'il y a beaucoup de limitations techniques. Mais oui, on peut s'amuser, il y a des jeux variés, on peut vivre quelque chose de nouveau.
Et alors encore, c'est assez formidable, parce qu'on parle de l'aube de la VR, mais la VR, ça a 60 ans presque déjà. Les premiers concepts, les premiers dessins de VR, un des premiers brevets date des années 60. Donc il a fallu quand même attendre très 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 longtemps. Moi je me souviens dans les années 90, j'étais parti en Angleterre.
Moi, je me souviens de ça surtout. Oui.
Il y avait le centre Sega. J'avais essayé certains jeux Sega sur Sega VR. Donc j'avais été malade comme un chien pendant toute la journée. Mais je me disais qu'il y avait du potentiel. Mais ça a mis presque 40 ans à être viable en tout cas aujourd'hui avec les technologies qu'on a. Et moi je trouve ça formidable, c'est vrai qu'on arrive à ce niveau-là d'interaction. C'est génial et de toute façon depuis 2014 on est en train de vivre une révolution par rapport à la VR, à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment eu un gap soudain. C'est vrai que ça s'est cherché pendant très longtemps. Ceux qui l'ont connu se souviennent peut-être du Virtual Boy qui était sorti avec la Game Boy.
Alors le Virtual Boy...
En 95.
C'était, voilà, bah, je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement on peut remonter aux années 90 avec les premiers casques. C'était des casques encore beaucoup plus gros qu'aujourd'hui et qui avaient évidemment une résolution encore bien inférieure. Et je te laisse imaginer la précision des graphiques en 3D, quoi, des graphismes en 3D.
Pour l'avoir essayé, c'était le même, dégueulasse. Hein.
C'était vraiment, voilà, c'était la même chose. Hein. Il y avait un casque avec deux écrans, mais tu voyais la profondeur. Après, c'était pas du tout prêt à être grand public. Il faut quand même se rendre compte que le PSVR, c'est un appareil grand public. C'est vraiment ça le truc, c'est que pendant très longtemps, c'est resté réservé à une niche de recherche ou, tu vois, d'expérimentation. Là, on a un produit grand public. Le premier produit grand public. Et c'est pas le dernier. Donc il y a évidemment l'Oculus Quest qui arrive dans pas très très longtemps maintenant, hein, donc cette année. Il y a des rafraîchissements, des Vive et des Rift qui arrivent aussi. Et alors, évidemment, la grosse question, c'est est-ce qu'il y aura un PSVR 2 et une PlayStation 5? Moi je l'espère, hein, même si évidemment c'est pas confirmé. Mais les ventes sont pas si mauvaises apparemment.
Ah bah non, puisque entre juillet février 2017, où ils avaient à peine atteint le million, pas encore, et août 2018, on était à 3 millions écoulés de PSVR. Donc il y a un vrai engouement, et je pense que ça va justement aussi avec les jeux. Et les gens peut-être aussi ont compris qu'effectivement, on n'a pas forcément les mêmes jeux en VR qu'en mode normal, on va dire. Bien que certains jeux... Est-ce que tu as entendu parler de The Solus Project ?
Oui, j'ai entendu parler, bien sûr. Bah, c'est une sorte de c'est un survival, non ?
Ça ressemble un peu à une espèce d'action RPG. C'est de l'exploration. Il y a une quinzaine d'heures de jeu quand même. Et c'est vraiment, vraiment agréable. Et c'est pareil, il y a In Death qui ressemble, ce serait un peu le, j'aime pas dire ça, mais ce serait un peu le Dark Soul de la VR, c'est-à-dire que t'y vas, tu te fais poutrer, tu reviens, les ennemis sont plus forts, mais toi aussi, et ainsi de suite. Et t'as une tendance à y retourner justement pour arriver jusqu'au boss. Et je pense justement, effectivement, comme on disait, qu'ils sont en train de trouver, ils sont en train de trouver la voie. Ils auront mis 60 ans, mais je pense que justement, on y arrive. Et puis alors, quand ils vont se débarrasser finalement de ce que tu disais avec les nouveaux casques, du câble, le fameux câble qui te casse les couilles, alors là, ce sera de la liberté pure et dure.
Alors, il faut voir que la VR, c'est une convergence de technologies aussi, hein, qui est pas forcément évidente à mettre en œuvre, surtout bon, bah, bon, au niveau grand public, au niveau de prix qui est accessible pour le grand public, parce qu'il faut des écrans donc qui sont à très haute résolution et qui sont à très haute densité, surtout, voilà, parce que comme ils doivent être petits pour entrer dans un casque et avoir une bonne résolution, il faut des écrans quand même, voilà, il faut une bonne technologie d'écran, après il faut une bonne technologie de capteur, il faut voir aussi que en VR, il faut que les capteurs soient extrêmement rapides.
Oui.
Donc il faut des accéléromètres extrêmement rapides, il faut avoir un repérage positionnel qui est aussi extrêmement rapide. Donc, ça demande tout ça des capteurs très précis et évidemment derrière des puces qui soient assez costauds pour gérer tout ça. Et par-dessus tout ça, évidemment, il faut une console qui puisse envoyer avec un débit d'image suffisant, parce que en VR tu fais pas du 30 images par seconde, hein, les trucs pépères que tu as sur PS4, tu peux pas. Non. C'est 60 images par seconde minimum.
Minimum,
pour
oui,
avoir une VR fluide. Et du coup, tout ça, ça demande quand même un certain niveau technologique à un certain prix suffisamment bas pour pouvoir le vendre voilà, à tout le monde. Et en plus de ça, il y a toutes ces histoires effectivement d'interaction. Donc ça, c'est assez... Et ce qui est intéressant, c'est que en VR, tu n'as pas forcément besoin de manette. Il y a quelque chose qui est plus naturel, puisque tu as des mains, avec les moves par exemple, mais aussi avec les contrôleurs Vive, etc. C'est directement tes mains, et donc du coup, quand tu dois, je sais pas, décocher une flèche sur un ennemi, bah, tu fais vraiment le geste. En fait. Il n'y a pas de gâchette ou des trucs comme ça. Ce qui amène quelque chose plus de naturel et peut-être voilà, une manière de jouer qui plaira à pas mal de monde. Bon, comme tu dis, évidemment, il y a énormément de choses à corriger ou à améliorer encore. Mais voilà, je pense que comme on était en PlayStation 1 il y a en 95, ben voilà, maintenant on a fait du chemin, et c'est vrai que ça, moi, voir ne serait-ce que Skyrim VR, voir la tête qu'il a déjà aujourd'hui, c'est vrai que ça file vraiment très très envie de voir ce que pourrait donner, je sais pas, Witcher 3 en VR, oh, par exemple, sur PS5.
Anthem en VR.
Ah oui, ben tu l'as testé, il paraît qu'il est... Tu l'as testé.
J'ai testé Anthem, je vous en reparlerai peut-être un autre jour, mais oui, j'ai testé.
Donc ouais, c'est vrai que nous la VR, donc on a bien apprécié. On n'est pas 100% positif, on n'est pas voilà, il y a des choses à corriger, il y a des choses voilà. Je pense même que si vous n'êtes pas un enthousiaste, voilà, si vous êtes un casual, si voilà vous jouez aux jeux vidéo pas très souvent, pas voilà pas trop, et c'est pas forcément fait encore pour vous, parce qu'il y a encore pas mal de trucs qui sont inutilement compliqués. Tu vois, et puis le casque, il a aussi des petits défauts. Alors moi, par exemple, j'ai un défaut qui me concerne en particulier, mais qui concernera beaucoup de monde, c'est que avec les lunettes, c'est pas très confortable.
Ah oui, j'y pensais plus à ça, c'est vrai.
Tu vois, il y a deux choses que moi j'aime pas aussi dans le casque PSVR. Il y a d'une part il y a pas de réglage interpupillaire.
Oui.
Alors, et d'autre part, il y a pas assez de place pour
les lunettes. Directement.
Alors, non, mais il n'y en a pas du tout, en fait. Parce que le réglage interpupillaire qui est proposé par la console, c'est du bidon.
Il est software. Ouais.
Voilà, et donc le réglage interpupillaire software, c'est du bidon, par définition.
Mais tu peux... Mais ça règle certains problèmes dans certains cas. Pour avoir joué énormément avec, c'est vrai que je... En tout cas, je ne sais pas si c'est la PS Pro, justement, qui fait ça, mais j'ai gagné en clarté sur certains jeux, justement, en réglant légèrement cet écart.
Moi d'expérience, donc on va peut-être préciser, donc le réglage interpupillaire, c'est parce que bon, vous avez deux, quand vous mettez un casque VR, vous avez tout simplement deux lentilles en face de chacun de vos yeux, évidemment, et ces deux lentilles, elles sont espacées de manière fixe dans les casques PSVR. Or, bah, tout le monde n'a pas la même tronche,
et, oui.
Et tout le monde n'a pas le même espace entre les yeux. Ce qui veut dire que quand vous avez un espace un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit, bah, vos yeux ne vont pas être exactement en face des lentilles, forcément toujours pareil. Alors évidemment, normalement, ce qu'il faudra faire, c'est pouvoir déplacer les lentilles et pour ajuster ça, et ça permettrait évidemment de gagner en clarté, parce que tout simplement, bah, si vous n'avez pas les yeux en face des trous, vous comprenez que c'est pas très, 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 très agréable. Et ça, le PSVR ne le permet pas. Ce qu'il permet par contre, c'est de régler par software ce genre de truc, et en fait, ce qu'il fait globalement, c'est qu'il modifie la profondeur. C'est-à-dire que quand vous avez un réglage interpupillaire qui est plus grand, les choses ont l'air d'être plus proches, ou l'air d'être plus loin, ça permet en fait de compenser un focus que vous feriez trop proche ou trop loin, parce que vous arrivez justement pas à faire. Mais c'est quand même une solution qui n'est pas particulièrement... Bah évidemment, ça réduit les coûts, hein, puisqu'il n'y a pas de pièces mécaniques et tout ça, donc c'est quand même forcément moins cher.
C'est pas pratique.
Mais c'est pas super génial. Et pour les lunettes, bah en fait, c'est prévu. C'est-à-dire que le casque est suffisamment grand pour que vous puissiez mettre des lunettes. Mais si vous mettez des lunettes, soit vous collez le casque sur les lunettes et vous avez donc tout le champ de vision, soit vous reculez un petit peu le casque et vous perdez quand même en champ de vision. C'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est quand même... voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux géré, je trouve.
Ouais, après, ouais, c'est une première version. Alors attention, il y a deux versions du casque, hein, qui est, du PSVR qui existe. Il y a la V1 et il y a sa révision. Si vous voulez l'acheter, je vous conseille malgré tout, même si des fois il est un tout petit peu plus cher, je vous conseille la V2, qui est plus légère au niveau des câbles et qui intègre un système de d'écouteurs directement sur le casque, ce qui est très pratique quand même.
Oui, sinon vous avez une prise jack sur la petite télécommande qui pendouille du casque. Vous avez une petite télécommande pour régler le volume et pour allumer le casque. Et il y a sinon une prise jack sur laquelle vous branchez le casque que vous voulez, voilà. Pourvu qu'il soit pas trop gros, parce qu'évidemment il faut qu'il soit compatible avec l'encombrement du casque. Mais sinon ça, voilà. Ça marche plutôt pas mal. Ouais.
Sur la V2, la télécommande elle a été déportée sur le casque, donc tu montes le son sur le casque directement, sur l'avant du casque. Donc ça, c'est, ça change quand même pas mal, je pense.
Ouais, effectivement, ça peut être pas mal. Après, vous ne vous excitez pas sur révision V2. Je pense que bon, globalement, si vous trouvez le premier vraiment moins cher, ouais, laissez-vous tenter par le premier.
Ouais.
Il n'y a pas des différences vraiment significatives entre les deux.
Au niveau qualitatif de l'écran, non, c'est exactement la même chose. C'est vraiment de la praticité en fait.
Voilà, donc l'essentiel est là, on va dire. Et en ce qui concerne le Alors, bon, il y avait ça. Donc, en ce qui concerne effectivement le truc PS4, PS4 Pro, bon, on va être clair. Oui, la PS4 Pro, c'est mieux. J'ai vu, c'est le consensus qui dit que la PS4 Pro, c'est mieux. Il y a moins d'aliasing et tout ça. Mais c'est pas forcément. Voilà, si vous avez une PS4 standard, allez-y quand même. Si vous avez envie d'y aller, allez-y quand même. Vous verrez plus tard. Parce que la différence, c'est pas assez grande, je pense, pour que ce soit vraiment, vraiment décisif.
Disons pour pour une première génération, pour un essai, essayer. Faut, je pense qu'il faut l'essayer. Et ça sert à rien d'investir des 1000 et des 100 pour essayer. Essayez pour voir si ça vous plaît. Et puis peut-être dans le futur, s'il y a une amélioration, n'hésitez pas. Mais là aujourd'hui, voilà, c'est comme dit Guillaume, c'est réservé encore peut-être à des férus de tech, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut quand même être un petit peu, encore un petit peu technophile pour vraiment essayer, pour vraiment, parce qu'il y a un certain nombre de concessions à faire, bon, qu'on a déjà listé, hein. Donc ces concessions, voilà, il y a peut-être des utilisateurs qui sont pas prêts à les faire parce qu'ils se disent non mais le jeu ça doit être voilà cool, direct, facile, voilà. Et bon, forcément, si vous êtes un peu plus technophile, peut-être que vous ferez plus de concessions justement pour avoir accès à une expérience qui est voilà vraiment vraiment hors du commun et qui vaut le coup d'être tenté. Surtout au prix où elle se pratique, disons, actuellement. Et voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus.
On est d'accord. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, ou directement sur le Telegram de Tech Café aussi, pour qu'on puisse en discuter peut-être, et puis qu'on vous conseille des jeux aussi, parce que moi j'en ai une bonne liste. Certains conseils aussi peut-être d'installation. Enfin, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Oui, exactement. Moi, je suis. Je crois que tu as plus de jeux que moi, mais j'ai testé pas mal aussi. Donc, oui, on est là. Et puis, bah, écoutez, si ça vous a plu, bah, on en est content. Merci de nous avoir écoutés. En tout cas, je pense qu'on peut conclure là-dessus cet épisode de Paraculte. Ce pilote de Paraculte. Donc, comme a dit très bien Tom, n'hésitez pas donc à faire des retours donc sur le Telegram et probablement sur le site de Tech Café, même si à l'heure où je vous parle, c'est pas exactement sous quelle forme sera diffusé ce truc-là, mais ça sera diffusé sur le site de Tech Café très, très, très probablement. Donc, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao, jouez bien et bah écoutez, on ne sait pas encore exactement quand, mais à bientôt pour un nouvel épisode de Paraculte.
À bientôt, jouez bien, faites-vous plaisir.
Faites-vous plaisir, ciao.
Et je vous l'ai dit en intro, hein, si vous êtes encore là, je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur techcafé.fr et répondre au questionnaire. Vous l'avez aussi en lien dans les notes de l'émission pour nous donner votre avis. Merci d'avoir écouté l'épisode.